Le coup d'état de Chéri-Bibi, chapitre 32, où Chéri-Bibi retrouve son fils. Au haut de la cheminée, Chéri-Bibi halait à lui la corde. Il lui semblait entendre au pied de la tour une rumeur insolite. Sans doute était-on sorti de la conciergerie pour avertir les gardes civiques qui se trouvaient sur le quai du drame qui se passait sur le toit. Et soudain, des coups de feu retentirent. Des balles vinrent ricocher sur le toit en poivrière. La position devenait critique. Il fallait se hâter. Chéri-Bibi brassait la corde et enfin une tête, un corps, apparurent. Chéri-Bibi le saisit avec une joie sauvage. « C'est moi !» fit la voix haletante et assez inquiète de M. Hilaire. Il y eut sous le ciel noir un hurlement de fureur, et Chéri-Bibi rejeta M. Hilaire dans la cheminée. M. Hilaire arriva en bas avec un grand fracas et dans un assez piètre état. Il avait les mains et le visage en sang et se plaignait de maux de rein. « Là, qu'est-ce que je vous avais dit ? » fit-il au subdamoun, qui déplorait l'événement. Cependant que la porte, sous l'assaut furieux du dehors, commençait à céder. Mais le commandant n'eut point le temps de plaindre M. Hilaire. Il fut entraîné, emporté, ficelé comme un paquet par le démon redescendu du ciel et hissé dans le moment que la porte sautait enfin de ses gonds. On tira des coups de fusil dans la cheminée. Par un miracle, ils ne furent atteints ni l'homme ni lui. Une décharge, partie des quais de la Seine, les accueillit encore à leur sortie de la cheminée. Là non plus, ils ne furent point touchés. L'homme avait pris le subdamoun dans ses bras. Il le serrait sans brutalité, presque avec tendresse. Il glissa avec lui jusqu'à la gouttière. « Nous sommes sauvés, » dit l'homme. Le subdamoun n'en crut pas un mot, mais tout de même il admira l'homme. Celui-ci l'avait poussé du côté opposé au quai, le mettant ainsi à l'abri des salves tirées par les gardes civiques et aussi des entreprises de quelques vieux gardes de la conciergerie qui se montraient aux mansardes des toits. L'homme accrochait le grappin de sa corde à une gouttière et la laissait pendre sur des toits en contrebas. Puis il mit cette corde entre les mains du subdamoun. Le commandant comprit qu'il devait se lancer dans le vide. La corde se balançait sous le poids. Enfin, le subdamoun prit pied. L'homme, pour ne point se séparer de sa corde, en détacha le grappin, l'enroula autour de son épaule et se laissa tomber le long d'une gouttière avec une adresse surprenante. Il fut aux côtés du subdamoun assez à temps pour l'empêcher de faire un mauvais pas qui eût pu lui être fatal. L'obscurité était presque complète. Il ne comprenait point comment l'homme voyait des choses qui restaient indistinctes pour ses regards à lui, cependant exercées au danger. On se trouvait dans un véritable chaos de toits et d'ombres. Des cheminées surgissaient tout à coup comme autant d'ennemis qui les guettaient. Parfois, le subdamoun ne parvenait point à dissimuler un tressaillement parce qu'il avait été surpris. Alors, l'homme lui disait « N'ayez pas peur ». Et puis tout à coup, il se reprenait. Il disait « Je vous demande pardon ». Il était honteux d'avoir recommandé au subdamoun de ne pas avoir peur. Le subdamoun comprenait cela et il était touché. Il n'avait pas vu le visage de l'homme, même dans l'ombre. Il était sûr de ne pas connaître son sauveur. Tout d'abord, il ne s'étonna point outre mesure de ce dévouement anonyme. Sur les champs de bataille, il avait été à même de juger le besoin qu'ont les humbles de se dévouer corps et âme au chef. Celui-là était sans doute un obscur soldat de la grande bataille civile que le subdamoun avait menée contre les pouvoirs établis. Tout de même, ce qui se passa sur les toits devait lui donner la plus haute idée, non seulement de la force, mais encore de la tranquillité d'âme avec laquelle son sauveur supprimait tout obstacle pouvant gêner leur fuite. L'homme avait dirigé cette fuite de façon à s'éloigner le plus vite possible des parages du quai, où l'on continuait à tirer des coups de fusil. Et vaguement, le commandant se rendait compte qu'à travers les 1000 méandres de ses toits et gouttières, parmi lesquels son étrange cicérone se mouvait comme chez lui, tous deux tendaient à atteindre un point donné. Un orage venait d'éclater. La pluie se mit à tomber à torrents. L'homme défit son vêtement, qui ressemblait à peu près à une pèlerine, et le jeta sur les épaules du subdamoun. Chose curieuse, le subdamoun rejeta le manteau avec horreur. L'homme s'en aperçut et eut un gémissement. « Je vous demande pardon, » dit-il humblement. « Je ne veux pas vous en priver, » fit le subdamoun en le ramassant et en lui tendant le vêtement. « Vous en avez autant besoin que moi. » Et il était étonné lui-même de l'extraordinaire mouvement de répugnance dont il n'avait pas été le maître. L'homme n'insista pas. Un éclair flamboya tout à coup d'une cheminée à une autre. Cette fois, le subdamoun put voir le visage de son sauveur. Il s'appuya à une ardoise, derrière lui, pénétré d'horreur. « Il a une gueule de forçat » gronda-t-il. Heureusement, l'homme ne vit point la figure du subdamoun. Il y eut lu un tel dégoût qu'il se fût peut-être laissé tomber à la renverse sur le pavé. Autour d'eux, commençait à monter un bruit de foule en rumeur. « Attention, les toits se peuplent !» fit la voix sourde du guide, à plat ventre. En effet, quelques silhouettes passaient sur un toit à leur gauche. Des ombres casquées de pompiers qui se laissèrent glisser ensuite entre deux pignons et que l'on ne vit plus un instant. L'homme s'en fut à la découverte et retrouva l'ennemi entre le toit d'à côté et celui sur lequel lui et le subdamoun étaient accrochés. Pour arriver plus vite à ce dernier toit, les pompiers jetèrent une échelle qui leur servit de passerelle. Sur cette passerelle, ils glissèrent. Le subdamoun, qui avait levé la tête, put les voir. Ils se détachaient comme des ombres chinoises sur un coin de ciel éclairé par une lune de sang qui sortait d'un gros nuage. L'homme qui avait rampé se redressa. Il avait dans les mains les deux bouts de l'échelle, et la grappe humaine, hurlante, glissa d'un seul coup dans la cour, d'une hauteur de 20 mètres. La lune se cacha à nouveau, tout redevint noir. Le subdamoun gémissait comme un enfant. « C'est horrible !» Soudain, l'homme s'arrêta. On entendait les galops et les cris des poursuivants derrière les toits qu'ils escaladaient. Une mansarde. L'homme frappa à la vitre. Au bruit, une tête parut. « C'est toi, Fanor ?» demanda l'homme. « Non, c'est moi, maçon !» répondit la tête. L'homme s'empara de la tête et tira. Le corps suivit en se débattant. Il fut jeté dans le vide. Le subdamoun recula, épouvanté. L'homme prit le subdamoun et le déposa avec précaution dans la chambre dont Masson venait si dramatiquement de sortir. Puis l'homme enjamba à son tour et ferma la fenêtre. Et maintenant, silence. « Ce que vous venez de faire là est un crime. Si vous croyez que ça m'amuse !» murmura la voix étouffée de l'homme qui s'attendrissait sur sa propre besogne. Cependant, le subdamoun, dans son coin, paraissait si affalé que l'homme crut devoir expliquer. « Je ne connais pas maçon, moi. Ah, si ça avait été Fanor, je me suis trompé de mansarde. Je vous demande bien pardon. » Le subdamoun ne répondait pas. Il se voyait à peine dans la nuit. Ils étaient deux paquets d'ombre en face l'un de l'autre. Le subdamoun se demandait « Qui est-il ?» Et l'homme était consterné parce qu'il sentait bien que son petit était fâché. Son petit. Il l'avait eu dans ses bras. Chéri Bibi avait tenu son fils dans ses bras. Oh, respectueusement, presque en tremblant, et sans oser le serrer sur sa poitrine, sur son cœur. Il se sentait absolument indigne. La gloire de la République dans les bras de la gloire du bagne. Il avait profané son enfant. Il en demandait pardon à Dieu et il en remerciait le diable. Tout à coup, le subdamoun demanda à voix basse « Je veux savoir qui vous êtes. » Chéri Bibi tressaillit dans son ombre, de la tête aux pieds. « Votre nom !» réitéra l'autre. Chéri Bibi avait du mal à avaler sa salive. Enfin, le gosier débarrassé, il dit « Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis un agent de la sûreté politique. Je ne dois pas avoir de nom. » « Un agent de la sûreté politique ?» répéta le subdamoun qui n'en croyait pas ses oreilles. « Oui, vous demanderez mon nom à M. Kravli quand vous aurez réussi. Je travaille pour lui. Moi, je ne suis pour rien dans cette affaire-là. J'exécute une consigne. Comprenez-vous ?» Le subdamoun n'en revenait pas. « Mes affaires vont donc si bien que cela, que Kravli est avec moi ?» interrogea-t-il, sceptique. « Très bien, si vous ne vous faites pas poisser, mais le plus fort est fait, nous n'avons plus qu'à attendre. Seulement, auparavant, vous allez mettre le costume de maçon. » « Qui est maçon ?»« Maçon, comme son collègue Fanor, est un garçon de bureau au parquet de Monsieur le procureur général, » expliqua Chéri Bibi, ramassant sur le lit qui se dressait dans un coin de la mansarde le costume et les insignes de ce malheureux employé et les déposant aux pieds du subdamoun. Nous-mêmes, nous nous trouvons en ce moment sous les toits du parquet du procureur général, qui donne sur le boulevard du palais. Nous n'aurons qu'à descendre. Je connais les êtres, et si nous nous rencontrons quelques gêneurs, vous n'aurez rien à dire. Vous me suivrez, votre costume vous permet de passer partout. Ainsi arriverons-nous sans encombre à la sûreté. Je sais un chemin qui est de tout repos. « Mais vous ? Oh, moi, on me connaît. Êtes-vous prêt ?» 5 minutes plus tard, le subdamoun et l'homme descendaient sans bruit les escaliers déserts du parquet général. Un lumignon de ci, de là, éclairait les vastes espaces traversés, les parquets cirés et trop sonores au gré du subdamoun. Un nouveau sujet de stupéfaction pour celui-ci fut une nouvelle transformation de l'homme, qui en fit un misérable vieillard au dos courbé et aux jambes cagneuses. Le subdamoun se rappela vaguement plus tard avoir pénétré dans d'étroits et humides corridors dont le vieillard ouvrait les portes avec un passe-partout. Là, ils rencontrèrent des agents auxquels son compagnon adressa des mots d'ordre incompréhensibles. Puis tous deux se trouvèrent dehors, dans la nuit du boulevard. Le vieillard marchait en avant, et laissant derrière lui tout le tumulte, il se dirigea vers le quai, enfila une rue sombre et déserte. Au bout de la rue, une limousine, phares éteints, attendait. Le misérable vieillard s'en fut ouvrir la portière. « Si vous voulez monter, mon prince, » fit-il entendre de son abominable voix de rogome. Jacques monta, et l'autre ferma la porte. La limousine démarra. Elle n'avait point de chauffeur. On la conduisait de l'intérieur. « Enfin, te voilà, Jacques !»« Frédéric !» Les deux compagnons d'armes avaient bien des questions à se poser, mais tout de suite, le subdamoun voulut que Frédéric lui dît quel était l'extraordinaire bonhomme qu'il avait sauvé dans d'aussi prodigieuses conditions. « C'est un grand ami d'Hilaire. Nous pouvons avoir confiance en lui. » « Je m'en suis aperçu, » acquiesça le subdamoun en hochant la tête. « Mais comment se nomme-t-il »« Je ne sais pas. Nous l'appelons le marchand de cacahuètes. » Chapitre 33. Chéri Bibi retrouve sa femme. Chéri Bibi regarda la limousine s'éloigner. Quand il ne la vit plus et ne l'entendit plus, il poussa un soupir. Il se mit à marcher et à penser aux devoirs qu'il avait encore à accomplir avant que de se reposer. Premièrement, le subdamoun, même hors de prison, n'était point au bout de ses peines. Deuxièmement, sa mère, la divine marquise du Touchet, attendait toujours dans la cave de M. Hilaire qu'on la vint délivrer. Troisièmement, M. Hilaire lui-même était à son tour la proie des ennemis de la nation, au fond de cette conciergerie où un geste de mauvaise humeur de Chéri Bibi l'avait si fâcheusement replongé. Chéri Bibi allait-il abandonner le fidèle Laficelle, l'ami des mauvais jours ? Cela ne lui ressemblait pas. Tout à coup, il poussa un cri. Il venait tout simplement de penser à ceci que la véritable mission de monsieur l'inspecteur général Hilaire à la conciergerie étant dévoilée, les officiers municipaux allaient faire une perquisition chez le traître et qu'ils allaient y trouver Cécilie. Chéri Bibi courait comme un fou. Des gens couraient également devant lui, derrière lui, sans s'occuper de lui. Une clameur montait dans le quartier. Une lueur fulgurante éclatait vers la droite comme un bouquet de feux d'artifice. Et il entendit quelqu'un qui disait « C'est la grande épicerie moderne qui brûle !» Alors il fit sa trouée, droit comme un obus. Chéri Bibi ne pensait plus qu'à la cave de Monsieur Hilaire et aux dépôts d'huile et de pétrole et autres essences qu'elle contenait, tous propres à alimenter un incendie au milieu duquel la figure divinisée de la marquise du Toucher apparaissait, les yeux au ciel, telle Jeanne d'Arc sur son bûcher. Arrivé au coin de la rue, Chéri Bibi se heurta, ou plutôt heurta le service d'ordre, et de telle sorte que les gardes crurent à un fou qui courait se jeter dans les flammes. Deux officiers municipaux se précipitèrent, mais durent bien vite reculer devant l'ardeur du foyer. Les pompes, cependant, faisaient leur œuvre, jetant au centre du brasier des trombes d'eau qui semblaient, par un curieux effet de brasillement affreux, alimenter le sinistre. Les pompiers, debout sur les toits, et de-ci, de-là, dans les encoignures de fenêtres, frappaient de la hache et aidaient certaines poutres à se détacher. Or, la cave dans laquelle étaient enfermés nos réfugiés se trouvait sous la grande épicerie moderne. Nous avons dit, en son temps, qu'on y pouvait descendre par une petite porte à ras du pavé qui donnait sur une étroite ruelle fort peu passante et qui servait à la descente directe des fûts dans le sous-sol. C'était à grand-peine que l'on s'approchait de cette ruelle, qu'une véritable voûte de feu recouvrait. Chéri Bibi, bravant le danger, parvint à se glisser dans un endroit où nul n'osait plus se risquer. À ce moment, il se rendit compte que toutes les explosions qu'il entendait ne venaient point seulement du brasier, car il fut frappé à la main gauche par une balle qui la traversa de part en part. De la rue d'en face, on tirait sur le feu. Et il n'eut que le temps de se jeter dans l'encoignure d'une porte pour éviter une nouvelle salve. Alors, voilà que la porte céda sous son poids et qu'il entendit la voix bien connue de son affreux galopin de Mazeppa qui disait « Par ici, patron, si vous n'aimez pas les pruneaux !» Dans le même moment, il découvrait qu'il se trouvait chez le Bougnat. Dans la boutique où l'on commençait à cuire, il y avait des corps de femmes, par terre, étendus, râlant ou à demi asphyxiés, au-dessus desquels deux êtres, noirs de l'incendie qu'ils avaient traversé, étaient penchés. Il reconnut le lieutenant Frédéric Elloni et l'un des gardes formidables du Subdamoun, à qui il avait donné la garde de la cave depuis que la marquise y était enfermée avec les femmes. Polydore. Il se jeta par terre, cherchant Cécilie. Il ne trouva là que deux corps, celui de Mademoiselle Lydie de la Morlière et de son amie Marie-Thérèse. « Où est la marquise ? » hurla-t-il. « Jean-Jean l'a sauvée, » lui dit Polydore. « C'est bien vrai ? » ?»«
Vous pouvez être tranquille, nous sortîmes arrivés à temps, » exprima rapidement Frédéric.
« Et le Subdamoun n'est pas là ?»
« Non, il ne sait rien. Nous sommes allés où l'on nous attendait.
Là, j'ai trouvé Mazeppa qui venait m'avertir de ce qui se passait chez Hilaire. J'ai laissé les chefs délibérer et je suis accouru sans rien dire au commandant. »«
Malheur à ceux qui mentiront !»
gronda Chéri Bibi en agitant sa main ensanglantée.
« Où est la marquise ?»
Polydore s'expliqua. Cependant que Frédéric recommençait à donner ses soins aux jeunes filles, qui, peu à peu, revenaient à elles.
Pendant qu'on se carapatait du feu, on nous tirait dessus. Moi, je portais la demoiselle Lydie. Jean-Jean avait la marquise. On s'est séparés pour débander les sorgues. Je l'ai vu grimper avec la marquise dans ses bras sur les toits, par-delà les produits alimentaires. Il était hors de danger. Moi, j'étais arrivée trop tard derrière lui pour passer par là. Je suis revenue par ici, le long du mur, sachant que Mazeppa m'attendait et que le Bougna, notre lieutenant, avait porté, ici, la demoiselle Marie-Thérèse. Ah, vous pouvez être content, patron. On a bien défendu ces dames. Demandez à Mazeppa. Maintenant, faudrait songer à les mettre, car ça commence à tourner au four de boulangerie, ici. Mais chéri Bibi ne paraissait pas s'en apercevoir. Il demanda, ne s'occupant pas plus des jeunes filles qui étaient étendues là et auxquelles le lieutenant prodiguait ses soins, que si elles n'existaient pas. « Et il y a longtemps qu'on vous tire dessus ?» Il avait collé ce voyou de Mazeppa contre le mur et il fallut bien que le galopin lui donnât des explications, pendant que Polydore se mettait à déblayer le fond du caveau de tous les sacs qui l'encombraient, découvrant ainsi une espèce de boyau souterrain qui donnait sur une cour ordinairement déserte et propice à la fuite. « Ben, v'là l'affaire !» fit l'autre. « Mais, pour sûr, d'ab, on va se brûler les tifs, ici !»« L'bougna !» Il désignait Frédéric et Noni. « Venez donc de me quitter avec mission de le rejoindre avenue d'Iéna, au moindre événement. » Quand j'aperçus des officiers municipaux et toute une bande de sectionnaires suivis d'une grosse troupe de gnafs. « Après, après !» gronda chéri Bibi qui se mordait les poings. « Eh, je cavale ! Attendez un peu, patron. Ces messieurs venaient perquisitionner chez Hilaire, du club de l'Arsenal, qui avait fait fuir le sub d'Amoun, qu'il disait. Il n'y avait pas 5 minutes qu'ils étaient dans la bicoque, qu'ils échangeaient des coups de flingot et de revolver avec Jean-Jean et Polydore, sortis de leur trappe pour les empêcher de descendre dans la cave. Les commis se sauvaient de tous côtés en poussant des hurlements. Je me dis, ça va mal tourner. Puisque je ne sais pas où est le patron, je vais toujours aller avertir le Bougna. Dardard, je me suis carapaté à la recherche du lieutenant, que j'ai vu entrer par les derrières de la tôle où on l'attendait avec le sub d'Amoun en personne. Le Bougna m'avait vu, il est redescendu et je suis revenu ici avec lui dans l'auto. Pensez s'il a perdu son temps, on faisait du 120, pour sûr. Mais ici, il faisait déjà chaud. Furieux de ne pas pouvoir descendre dans la cave, les officiers municipaux avaient déjà fichu le feu à la boutique et les bonnes femmes en bas qui hurlaient. J'entendais la voix de Madame Hilaire qui criait au secours, comme si déjà elle n'était plus qu'une braise. Pauvre Madame Hilaire, il n'y a qu'elle dont on ne s'est pas occupé. Elle ne crie plus, de profundis. Et la marquise, râla chéri Bibi. Ah, la marquise, on ne l'entendait pas. C'est du monde qui ne crie jamais, même quand il y a le feu, patron. Était-elle blessée? Est-ce que je sais, moi? Est-ce que je pourrais vous dire? « Sûr que je l'ai vue dans les bras de Jean-Jean. Elle avait l'air plus morte que vive. »« Si elle est morte, je vous crève tous !» gronda chéri Bibi, les poings serrés. « Mais puisqu'on vous dit que Jean-Jean l'a sauvée, tenez, lave-la !» Chéri Bibi fit un bond terrible par la fenêtre. Lui aussi venait d'apercevoir la marquise du Touchet, ou plutôt son corps pantelant, dans le plus tragique décor qui se pût concevoir, et toujours dans les bras du fidèle Jean-Jean. Celui-ci, poursuivi sur les toits par les gardes civiques et voyant sa retraite coupée, s'était vu dans la nécessité de revenir vers les murs branlants de la fournaise. La minute était terrible. Le dernier espoir de Jean-Jean l'avait poussé évidemment du côté de la ruelle, où il savait qu'il trouverait la retraite du Bougna. Mais cette retraite, comment l'atteindre ? Bien que le feu, depuis quelques instants, eût diminué d'intensité en cet endroit, le groupe formé par Jean-Jean et la marquise n'en paraissait pas moins fort aventuré dans le coin de cette croisée du dernier étage que venaient lécher encore de temps à autre les flammes. Des coups de fusil avaient accueilli la sortie de chéri Bibi et des deux côtés de la ruelle, les gardes civiques se précipitèrent en dépit de la chaleur atroce. Mais cette double ruée sauva notre bandit. En effet, quand les gardes se virent en face les uns des autres, Ils cessèrent le feu pour ne point s'entretuer. Chéri Bibi en profita pour achever sa course et sauter dans cet enfer où il disparut. Alors, quelques-uns des gardes se jetèrent vers la porte du Bougna, où ils savaient que le reste de la bande s'était réfugié. Ils n'y trouvèrent plus personne, mais découvrirent le couloir souterrain par lequel les trois hommes s'étaient certainement échappés, emportant Mademoiselle de la Morlière et Marie-Thérèse. Après avoir déchargé leurs armes dans cet étroit boyau, ils avancèrent à tâtons et se heurtèrent tout de suite à deux corps qui avaient roulé par terre. Ils les tirèrent à eux jusque dans la boutique. C'était Polydore, qui avait reçu une balle dans le dos et qui paraissait à son dernier spasme. On eut toutes les peines du monde à lui arracher le corps de la pauvre femme qu'il avait voulu sauver. Lydie, au milieu de ce carnage et de ces lueurs d'incendie, ouvrit les yeux. « Chouette !» s'écria un officier municipal. « Voilà une bonne prise ! C'est la fiancée du Subdamoun !» Satisfaits de leur besogne de ce côté, ils se rejetèrent dans la ruelle qui, dès lors, fut envahie par la foule, les pompiers et les soldats. On s'y écrasait, on s'y brûlait aussi. Des clameurs de diverses natures se faisaient entendre, car un coup de feu venait d'atteindre l'homme qui tenait la marquise dans ses bras. Et beaucoup de ceux qui étaient là protestaient contre les exécuteurs d'une aussi abominable consigne. Jean-Jean était visiblement touché. Il s'accrochait désespérément à une barre de fer tordue par les flammes et dont la chaleur lui avait arraché un cri suprême de douleur. Mais déjà, il basculait sans qu'il eût lâché son fardeau, et l'on s'attendait à le voir s'écraser sur le pavé avec la marquise quand, dans le cadre de cette même croisée, surgit un furieux démon. Cet être extraordinaire, qui paraissait vomi par le feu comme le génie du feu même, arriva juste à temps pour arracher à Jean-Jean la pauvre douairière, dans la seconde même où celui-ci, victime de son dévouement au grand dab, accomplissait sa suprême pirouette. Il s'abîmait au milieu d'un brasier qui jeta sous son poids une véritable gerbe de feux d'artifice. Pendant ce temps, l'homme sorti du feu y rentrait avec sa proie. Des flammes, des coups de fusil, des balles qui sifflent à ses oreilles, au-dessus de lui, autour de lui, une horde qui le poursuit, un brasier à ses pieds, un ciel d'enfer sur sa tête, mais Cécilie sur son cœur. Chéri Bibi est aux anges, Chéri Bibi est dans le paradis. Il remercie le ciel, au centre de cette furieuse bataille qu'il livre aux hommes et aux éléments, de lui avoir réservé un pareil bonheur. Certes, cela compte une journée pareille, où il lui était réservé, à lui, le paria de toutes les sociétés, d'entendre battre, sur sa poitrine, la vie de ses deux êtres adorés, son Jacques et sa Cécilie. Ah, Cécilie! Cécilie, sa femme adorée, sa femme évanouie qu'il pouvait presser sur son formidable, ignoble sein, après tant d'années de misère morale passées à se dire « je ne l'approcherai plus ». Il la berce dans ses bras comme une mère son enfant qui dort. L'incendie qui les entoure est moins chaud que l'ardent charbon du cœur de Chéri Bibi, lequel brûle pour Cécilie éternellement, comme l'enfer, sans se consumer. Seigneur Dieu ! L'homme a vivement profité d'un rideau de feu pour embrasser cette femme. Ah ! Les lèvres de Chéri Bibi sur le front blanc de la sainte, dans cette cathédrale de flammes. Chéri Bibi hurle de joie, halète, grogne, danse de bonheur sur les briques brûlantes. Il apparaît, disparaît, réapparaît, embrasse son fardeau, le dresse vers le ciel, le rejette sur son cœur et saute avec lui dans quelque trou de mansarde au-dessus duquel les visages effarés des poursuivants se pencheront et n'apercevront rien. Où est-il passé? Seul il connaît, le roi du bagne, tous les chemins qui conduisent sous la terre à la retraite du cul-de-sac maudit
où Chéri Bibi a placé ses oubliettes. Cécilie se passe la main sur le front, comme on a l'accoutumé de faire quand on veut ressaisir sa pensée et quand on renaît, comme on dit, à la vie. Cécilie se souvient du drame de l'incendie, et puis sa pensée bondit plus haut. Ses yeux qui pleurent derrière des lunettes, ses pauvres yeux horribles qui font peine et qui font peur, elle les a déjà vus. Elle sait maintenant. Elle murmure « Le marchand de cacahuètes ». C'est le marchand de cacahuètes qui l'a sauvé, qui l'a amené là. C'est le marchand de cacahuètes qui lui a promis de sauver son fils. Partout où il y a de la difficulté, le marchand de cacahuètes est toujours là. Elle frissonne. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Elle n'a jamais pu penser à ce terrible sauveur sans frissonner. Elle l'appelle et elle le redoute. Elle le craint sans le connaître et ne saurait pas le remercier. Qui est-il ? Pourquoi fait-il cela ? Pourquoi veille-t-il ? Il a l'air si atrocement malheureux quand il la regarde. Qui peut-il être ? Elle se demande s'il n'est point simplement une image de son cerveau malade. Et il n'existe peut-être pas. Elle se soulève sur sa couche. Elle glisse du grabat. Il y a là une table couverte de fioles et de bols, de toute une pharmacie. Elle va plus loin que la table. Ah, un couloir. Et au bout du couloir, là-bas, de la lumière. Cette lumière ne la rassure point, mais elle l'attire. Elle descend quelques degrés. Elle marche. Elle marche. C'est un ray de lumière qui passe sous une porte. Tiens, la porte n'est point fermée. Elle pousse la porte. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait ? Mais elle jette un cri de surprise. Elle est dans une petite cave, toute resplendissante de lumière. Plus de 20 bougies brûlent dans des candélabres magnifiques et ils éclairent les portraits d'une femme et d'un enfant. Mais quel portrait ! Jamais, sur les murs des basiliques byzantines, tant de joyaux, tant de perles, tant de colliers n'avaient été suspendus avec plus d'amour autour des saintes icônes. Elle s'approche davantage. Maintenant, elle les voit tout à fait bien, les portraits, et elle les reconnaît. Ce sont les portraits de Cécilie, aux jours les plus heureux de sa beauté et de sa maternité. Et ce sont les portraits du petit Jacques, à tous les âges, depuis le berceau. Sur une table qui ressemble à un autel, un coffret est ouvert. Dans ce coffret, il y a une croix, une admirable croix de la Légion d'honneur, toute sertie de diamants et de perles. Cette croix aussi, Cécilie la reconnaît. C'est celle qu'elle a reçue un jour d'un inconnu pour qu'elle fût offerte à Jacques et qu'elle a réexpédiée, ne voulant pas accepter un pareil cadeau sans en connaître la provenance. Peu à peu, Cécilie s'était laissée tomber sur les marches de l'autel où avaient été comme déifiées sa personnalité et celle de son fils. Elle était plus anéantie que jamais. Plus que jamais, elle se demandait à quelle sorte de dévouement elle était en proie. Une angoisse singulière l'étouffait. Elle n'avait jamais eu si peur d'elle ne savait pas quoi. Soudain, ses yeux furent attirés par une photographie vers laquelle elle se traîna. Et alors, elle ne put retenir un cri. La villa de la falaise. C'était en effet une vue de la villa des Bourreliers, sur la falaise de Puy, près de Dieppe, en France, la villa de ses parents, où elle avait été élevée. La vue en avait été prise dans le jardin. Et, sur le seuil du jardin, elle se reconnut, parlant à un jeune garçon boucher qui avait un panier au bras et qui prenait certainement la commande de la jeune maîtresse de maison. Elle se rappelait avoir vu cet instantané jadis, entre les mains de la petite Jacqueline, de celle qui devait être plus tard sœur Sainte-Marie des Anges. Cécilie se rappelle. Oui, oui, c'est bien cela. Jacqueline faisait de la photographie et elle avait photographié Cécile Bourrelier et Chéri Bibi. Oui, oui, oui. Le petit garçon boucher, c'était Chéri Bibi. Chéri Bibi. Elle prononça tout haut ce nom
et une effroyable lumière se fit dans son esprit. Elle savait bien que lorsqu'elle était encore jeune fille, Chérie Bibi l'avait aimée, bien qu'il ne lui eût jamais parlé de cet amour. Elle lui avait vu plus d'une fois les yeux pleins de larmes. Misère de Dieu ! Les yeux qui pleuraient derrière les lunettes de son sauveur. C'étaient les yeux de Chérie Bibi. Chérie Bibi, le forçat, le roi du crime. Elle et son fils étaient protégés par Chérie Bibi. Madame la marquise du Touchet s'évanouit une fois de plus. Elle croyait avoir touché le fond du mystère. Pauvre Cécile, elle l'abordait à peine. Chapitre 34. La dernière charrette. Messieurs Florent et Barquimel, qui passaient leur temps à se confesser entre eux et à se réciter mutuellement la prière des morts, furent bien étonnés en voyant la porte de leur cachot s'ouvrir et le guichetier y précipiter, fort brutalement, ma foi, monsieur l'inspecteur des prisons lui-même. Ils n'eurent qu'un cri. « Monsieur Hilaire ?» Et ils lui tendirent la main avec un sourd gémissement sur leur infortune à tous. Monsieur Hilaire reconnut monsieur Florent et monsieur Barquimel et loua le ciel de lui avoir permis de passer ses derniers moments avec des amis aussi distingués. Après réflexion sur l'égalité devant la mort, monsieur Hilaire crut devoir apporter quelque tempérament à une aussi sombre philosophie, en avertissant ces messieurs que, quant à lui, il n'avait point perdu l'espoir que leur sort à tous trois s'améliora d'ici peu. Ayant jugé sévèrement les hommes de l'hôtel de ville, il annonça à messieurs Barquimel et Florent que les honnêtes gens se soulevaient, dans l'instant même, au fond de toutes les provinces pour venir les délivrer. Monsieur Florent ne prit point le temps de se faire répéter cette bonne parole pour faire entendre un soupir plein d'espérance. Au contraire, monsieur Barquimel baissa la tête et ne donna plus signe de vie, si bien que cette attitude désolée finit par frapper monsieur Florent, qui en demanda la raison. « Hélas !» répliqua monsieur Barquimel. « Monsieur Hilaire a parlé des braves gens, et je sais par ce qu'il entend par là. Après avoir rempli le triste rôle qui m'a été dévolu en ces jours néfastes, puis-je espérer décemment compter parmi les braves gens ?»«
Évidemment !»
fit monsieur Hilaire. « Je comprends l'embarras de monsieur Barquimel. Il s'est bien distingué au tribunal révolutionnaire.
« Pas plus que vous, monsieur Hilaire, au club de l'Arsenal !»
interrompit sur un ton désolé mais ferme monsieur Barquimel, qui n'avait pas attendu d'avoir été nommé juge pour avoir le sentiment inné de la justice.
« Et vous me permettez, monsieur Hilaire, de m'étonner qu'après avoir prononcé de si furieux discours contre les ennemis de la Révolution, vous comptiez encore sur eux pour vous tirer d'affaire. »
« C'est que vous ne savez pas, » répondit avec sang-froid monsieur Hilaire, « que pendant que je prononçais tout haut ces affreux discours, je travaillais tout bas pour les contre-révolutionnaires et que je leur rendais les plus signalés services.
« Et vous vous en vantez ? C'est du propre !»
s'exclama monsieur Barquimel, outré de tant de cynisme.
« Je ne m'en vante pas. Je vous dis simplement ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait n'est pas si bête. Vous, vous avez servi les révolutionnaires parce que vous avez cru que c'était votre intérêt. Moi, j'ai imaginé que deux précautions valent mieux qu'une, et que j'aurais plus d'occasion de m'en tirer en servant à la fois les uns et les autres. »
« L'histoire vous jugera, » répartit monsieur Barquimel en croisant les bras.
« Ne vous disputez pas pour le peu de temps qui nous reste à vivre, » supplia monsieur Florent.
Ces messieurs en étaient là quand la porte du cachot s'ouvrit et le garde les appela tous les trois. À cette heure, on eût dû les laisser dormir au moins leur dernier sommeil. Que se passait-il donc ? Tout simplement que l'évasion du subdamoun avait mis sans dessus-dessous le gouvernement de ville et que le comité de surveillance avait décidé que le procès des complices aurait lieu sur l'heure de façon à ce que leur exécution, dès l'aurore, apaisa quelque peu les révolutionnaires
qui était toujours prêt à crier à la trahison. Dans la rage où le comité se trouvait, il n'y eut point de demi-mesure. On vida sur l'heure à peu près tous les cachots. C'est ainsi que M. Barquimel retournait au tribunal une seconde fois pour être condamné une seconde fois à la mort. « Si j'en réchappe, faisait-il assez mélancoliquement, j'aurai de la veine. » La grande chambre du tribunal révolutionnaire fut archibondée d'accusés que surveillaient de près les sectionnaires, baïonnettes au canon. Ils étaient là une soixantaine de victimes désignées d'avance qui attendaient le bon plaisir de leur juge. Cependant, le baron d'Ascoff portait beau. Il savait de quel prix allait être payée sa trahison, et il s'en réjouissait d'avance en regardant Sonia Liskine, qui ne faisait du reste aucune attention aux manières glorieuses du baron. Elle était toute à la charitable besogne de soutenir et de consoler une malheureuse et bien belle jeune fille que l'on avait jetée à la dernière heure dans son cachot. Cette jeune personne n'était autre que Mademoiselle Lydie de la Morlière. L'esprit diabolique du baron d'Ascoff se divertissait plus qu'on ne saurait dire au spectacle peu banal du couple formé par la maîtresse et la fiancée du subdamoun. Avec quelle joie méchante il voyait la pâleur et le désespoir de Lydie, et de quel regard de triomphe il caressait déjà celle qui ne pouvait plus manquer maintenant de lui appartenir. Le procès fut mené rapidement comme une exécution. Tous les accusés furent condamnés, à l'exception de trois. D'abord, Mademoiselle Sonia Liskine, qui ne put en croire ses oreilles, et qui demanda sur un ton éclatant ce qui pouvait bien lui valoir un pareil déshonneur. Elle fut vite renseignée, en entendant acquitter ensuite le baron d'Ascoff. Certes, elle ne pouvait douter que le baron eût trahi, et que c'était à lui qu'elle devait une aussi outrageante clémence. Le baron ricanait. Il cessa tout à coup son rire infâme en entendant acquitter également la baronne d'Ascoff. Celle-ci, il n'avait point voulu la sauver. Il l'avait même complètement oubliée. Et dans ses abominables combinaisons, il n'avait eu garde de penser à sa femme. Or, c'était là une gentillesse de l'accusateur public qui avait voulu être agréable à un homme qui promettait, après le procès, de faire d'extraordinaires révélations. La baronne, qu'on était allé chercher dans la prison et qui avait été jetée au fond du prétoire, n'avait pas été aperçue du baron, qui ne la vit que lorsqu'elle piqua son admirable crise de nerfs des grands jours en s'entendant acquitter. Le baron jura comme un palefrenier pendant qu'on emportait sa femme. Il n'y eut point d'autres incidents, et tous les prisonniers furent reconduits dans leur cachot en attendant les premières heures du jour. Sonia continuait de prodiguer des soins touchants à Mademoiselle de la Morlière. Celle-ci pouvait enfin laisser couler librement ses larmes, et cette crise d'attendrissement sur son sort ne manqua point de la soulager. Les deux femmes finirent par échanger, dans leur affreux malheur, les propos les plus sympathiques. À l'heure de la douleur, et quand elles doutent du salut de l'objet aimé, il n'y a rien de tel pour rapprocher deux femmes que d'avoir aimé le même homme. Alors elles tremblent dans les bras l'une de l'autre. La jalousie, devenue inutile, a fui en cette minute suprême, et au lieu de se déchirer, elles s'efforcent de se consoler. Lydie, sous le coup de sa propre condamnation, n'avait point entendu que Sonia était acquittée, et elle croyait celle-ci vouée au même destin qui la frappait. Sonia, de son côté, n'avait point la cruauté de lui apprendre la vérité. Du reste, Mademoiselle Liskine regrettait sincèrement le bourreau, maintenant que la présence au procès de M. Hilaire et sa condamnation attestaient que l'évasion du subdamoun avait échoué, et que l'on affirmait dans la prison que le commandant avait été assassiné à coups de baïonnette par les gardes civiques. Après un moment de silence, comme les larmes de Lydie coulaient toujours, Sonia lui dit « Pourquoi pleurez-vous? c'est vous qu'il aimait. »
Lydie tressaillit et leva vers sa compagne de tristes yeux, puis elle secoua la tête.
« Non, non, vous êtes trop belle. Quand il vous a connue, il ne vous a plus quittée. Et maintenant que je suis près de vous, je le comprends. Laissez-moi pleurer. »
Et ce fut une nouvelle explosion de sanglots. Sonia, éperdue, la berça.
« Mais vous êtes folle, ma chérie. C'est son ambition qui l'a conduit vers moi. Mais à vous, il vous aurait sacrifié son ambition même.
Nous étions des amis de la vieille destinée à ne plus se connaître le lendemain qui vous appartenait tout entier, Lydie.
Hélas, hélas, je mourrai donc sans avoir connu ce lendemain-là. »
pleura encore Lydie. « Que ne suis-je morte ce matin de misère où j'ai tenté de me suicider ?»«
Ce matin-là, malheureux enfant, » reprit l'obstinée Sonia, « il a tenté, lui, de sauver le pays, et il n'y a point réussi parce que vous, vous avez tenté de vous tuer. Il a tout abandonné pour vous. Et ce retard, c'était la ruine de tous ses prodigieux efforts. Et il n'a point hésité. Ingrate qu'il oubliait. »
C'est vrai, » répondit la voix douce et exténuée de la jeune fille. « C'est vrai, ce matin-là, il est venu près de moi. Il a tout abandonné pour moi. Et j'ai ouvert les yeux dans ses bras. Dans ses bras. Dans ses bras. »
Elle finit par s'endormir en murmurant « dans ses bras ».
Quelques instants, Sonia la garda ainsi sur son sein, écoutant cette respiration et les dernières pulsations de cette adorable vie qui, si jeune, était condamnée à mourir. Puis, elle la déposa avec mille précautions sur le grabat. On entendait des pas dans le corridor. Elle craignit que ce tumulte qui se rapprochait réveillât la prisonnière. Anxieuse, elle était penchée sur Lydie, mais Lydie dormait. Dormait maintenant si profondément qu'elle ne se réveilla même point quand la porte du cachot s'ouvrit et que l'officier municipal appela « Mademoiselle Lydie de la Morlière. »«
C'est moi, » dit Sonia, et elle alla rejoindre les autres condamnés qui attendaient, entre les baïonnettes des sectionnaires.
La porte du cachot fut refermée. Mademoiselle de la Morlière dormait toujours. Par la suite, chacun crut ou put croire que le tribunal, revenant sur sa décision, avait condamné la maîtresse du Subdamoun. Ce matin-là, on fit la toilette des condamnés dans la salle des gardes. On n'entendait que le bruit des ciseaux des guichetiers. Mademoiselle Liskine eut devant elle un commis de greffe auquel elle avait eu l'occasion de donner déjà quelques pourboires et qui était doué d'une nature timide et poétique. Ses mains tremblaient sur le beau col nu de Sonia et avait peine à soulever le poids impressionnant de ses magnifiques cheveux d'or. Il hésitait à faire entrer dans l'adorable toison ses hideux ciseaux et tâtonnait. De sa voix la plus douce, Sonia le pria de montrer moins de pusillanimité, car elle désirait, autant que possible, que sa chevelure ne fût point abîmée. « Je veux en faire un cadeau, » disait-elle. « Arrangez-moi cela d'une façon convenable, monsieur le commis. » Le commis soupirait et suivait les indications de la victime sans pouvoir retenir ses larmes.
« Pourquoi pleurez-vous ? » lui dit Sonia. « Suis-je tant à plaindre ?»«
Madame, » répondit galamment ce commis de greffe, « si vous ne voulez point que l'on pleure sur vous, laissez-moi pleurer au moins sur ceux qui ne vous verront plus. »
La réponse plut beaucoup à Mademoiselle Liskine, qui n'hésita point à lui confier le désir qu'elle avait que ses cheveux fussent portés, en souvenir d'elle, à la prisonnière qui occupait encore le cachot qui avait été le sien.
Le commis jura tout bas que la commission serait faite, et il eut la précaution de mettre à l'abri immédiatement le trésor capillaire qu'on venait de lui abandonner. Non loin de Sonia, l'ex-président de la Chambre, M. Lavaubourg, penchait la tête et frissonnait au froid des ciseaux. Le trio, Hilaire, Florent, Barquimel, était intéressant à contempler en son genre. Ces messieurs n'avaient vu du tribunal révolutionnaire qu'une bousculade. Ils en étaient revenus avec quelques coups de crosse qui les avaient fait horriblement souffrir dans leur amour-propre. Ils avaient voué à une destruction rapide une société qui ne sait même pas respecter ses victimes. Et ils ne regrettaient rien tant que de ne point vivre pour assister à cette catastrophe qui eût pu les sauver. Pendant qu'on leur faisait leur dernière toilette, ils prêtaient l'oreille aux propos qui se chuchotaient dans la demi-obscurité de la salle gothique. Des gens bien informés, auxquels on venait d'échancrer fort proprement le col de la chemise, affirmaient que si le gouvernement de l'hôtel de ville se pressait tant de les expédier, il n'en fallait point chercher la cause ailleurs que dans l'ultimatum parvenu la veille au soir de Versailles. On disait qu'à tout hasard, Coudray avait fait masser 200 canons place de la Révolution. Enfin, il fallait se faire une raison et tâcher de mourir avec les autres le plus convenablement possible. Ainsi s'exprimèrent les deux amis en s'étreignant mutuellement et en s'inondant le visage de leurs larmes sincères. Quand les grilles du guichet s'ouvrirent, ils se tamponnèrent hâtivement les yeux et s'occupèrent surtout de n'être point séparés l'un de l'autre. Il y avait là, dans la cour, 4 charrettes. On les poussa dans la première. Monsieur Barquimel aida Monsieur Florent à monter. Monsieur Florent aida ensuite Monsieur Hilaire. Monsieur Hilaire paraissait distrait, ne s'occupant point de ses compagnons, et l'œil errant au loin. Il fut tiré de ses préoccupations par la voix de Mademoiselle Liskine, laquelle, placée à côté de lui, demandait à l'ex-inspecteur des prisons s'il était vrai que le subdamoun fût réellement mort. Monsieur Hilaire lui répondit qu'il espérait encore que non, et que le subdamoun avait eu, à sa connaissance, quelque chance d'échapper à ses ennemis. À ces mots, Sonia pâlit, et l'on ne sut jamais si c'était de bonheur ou de regret. De bonheur de pouvoir penser que son dernier amant fût encore vivant, ou de regret de s'être sacrifié avec tant d'héroïsme dans un moment où elle aurait encore pu le rejoindre. Sur ces entrefaites, la porte du guichet extérieur fut ouverte, et la sinistre procession commença de défiler sur le quai. Quand la première charrette apparut, et c'était une véritable charrette que l'on avait réquisitionnée au dernier moment, les quarts de la mort étant pleins, il y eut contre elle un formidable ourvari d'injures et de malédictions. Elle était pleine des principaux héros de cette histoire. Au surplus, le désordre, le combat, l'incendie, les chants, les blasphèmes semblaient ce matin-là être les maîtres de la ville et ne cessèrent de faire cortège aux dernières victimes de la nouvelle révolution. Au-delà des flammes, qui léchaient déjà sur les bords du fleuve les pierres séculaires des monuments sacrés de l'histoire et qu'avaient allumé des hordes déchaînées par la rage et l'impuissance d'un comité de révolte vaincu d'avance, les condamnés entendaient le bruit sourd du canon de Versailles qui venait peut-être les délivrer. À ce moment, M. Hilaire était certainement le plus désolé de tous. Mais 300 mètres plus loin, il sembla renaître. C'est lui! En effet, c'était lui, le marchand de cacahuètes, qui marchait en tête de la première charrette, au milieu d'une bande d'hommes de sang et de rapines. Il paraissait en proie à un vertige insensé, et son aveugle transport amusait la hideuse cohorte, qui l'encourageait de ses rires. Il jetait les fruits légers de son commerce aux uns et aux autres en leur criant « Mangez mes cacahuètes, en voilà encore que les Versaillais n'auront pas !» Le cortège avait tourné sur la gauche, gagnant comme toujours par le boulevard Sébastopol les grands boulevards. Monsieur Hilaire ne voyait, n'entendait plus que le fantasque vieillard qui agitait son panier vide. Certes, il avait eu raison de ne point douter de Chéri-Bibi. Sans doute, celui-ci eût mieux fait de ne point rejeter la ficelle dans la cheminée, alors qu'il en était si heureusement sorti. Mais ce geste de colère, si excusable en l'occurrence, devait être naturellement racheté par quelque entreprise héroïque qui arracherait M. Hilaire au bourreau. M. Hilaire, cependant, s'impatientait de voir le chemin se raccourcir, mot affreux qui lui vint à l'esprit et lui fit faire la grimace, quand son attention fut attirée par de singuliers mitrons qui vendaient des brioches. Il y avait là, en effet, plusieurs établissements de pâtisserie. À l'époque qui nous occupe, ils avaient acquis une grande prospérité, et les temps malheureux que l'on traversait n'avaient point atteint leur commerce. Les jours de fête, ces pâtisseries chargeaient des mitrons extra, découlaient dans la foule leurs marchandises toutes chaudes. Ce matin-là, ils étaient plus nombreux que de coutume, et faisaient entendre au-dessus du tumulte général d'étranges interpellations, qui cessèrent du reste, dès que le marchand de cacahuètes eut jeté son panier vide en l'air dans leur direction. Dès lors, M. Hilaire ne douta plus que le moment utile fût arrivé. L'endroit paraissait du reste bien choisi. Les charrettes passaient en contrebas d'un perron sur lequel s'étageaient de vieilles rues qui n'avaient pas changé d'aspect depuis plus de 200 ans. Des hauteurs du perron, une troupe de partisans déterminés pouvait tenter, avec quelque chance de succès, de se jeter sur le cortège et d'y faire par surprise de la bonne besogne. Il voulut avertir d'un signe M. Florent, mais il s'aperçut que le marchand de papier à lettres s'était affalé sur l'épaule de l'ex-marchand de parapluies. M. Barquimel, lui, paraissait complètement avachi. M. Hilaire, en faisant rapidement des yeux le tour de la voiture, aperçut la figure rayonnante de Sonia et fut frappé de l'éclat qu'elle avait mis dans son regard. Il suivit ce regard, qui se dirigeait vers un point, et il découvrit là, à une fenêtre qui dominait l'étrange foule bruissante dans les trois carrefours, une physionomie dont l'aspect lui fit pousser une sourde exclamation. Le subdamoun. Il n'y avait pas à en douter. Le commandant Jacques était là, et s'il était là, il ne devait pas y être seul. Le renfort, en tout cas, ne pouvait être loin. « Il y a du bon !» pensa M. Hilaire, qui n'avait jamais cru sérieusement qu'il pût mourir sur l'échafaud, ou tout au moins qui avait toujours rejeté cette perspective, comme lui étant particulièrement désagréable. Et voilà que, juste dans le moment que l'espoir tenace de la délivrance renaissait en lui, le subdamoun fit un signe à la suite duquel 1000 clameurs s'élevèrent. Les mitrons, qui semblaient commander à cette foule, escaladèrent la balustrade de la haute rampe et se jetèrent sur la chaussée, suivis d'une centaine d'individus à figure farouche qui agitaient les armes les plus hétéroclites. Des coups de feu partirent de tous les côtés. Des gardes civiques tombèrent. Une bataille acharnée se livra autour de la première charrette. Sonia haletait aux péripéties de l'atroce mêlée. Elle put voir le subdamoun lui-même, qui, debout près de la rampe, maintenant dirigeait le combat. Les gardes, surpris tout d'abord, durent reculer. Il y eut un flottement dans la marche du cortège. La première charrette se trouva séparée des autres. M. Hilaire cherchait déjà comment il allait pouvoir se jeter hors de sa voiture. Le marchand de cacahuètes avait disparu. Tout à coup, M. Hilaire se sentit terriblement accroché à l'épaule par une poigne formidable qui venait du dehors. Il n'eut garde de résister et se laissa emporter par cette puissance irrésistible. Seulement, le sectionnaire qui était dans la voiture, non loin de lui, lui allongea un grand coup de baïonnette en pleine poitrine, ou du moins qui visait la poitrine et qui glissa sous le bras. Comme M. Hilaire bascula, alors d'étrange façon, les pieds en l'air, le sectionnaire put croire que son coup avait porté et qu'il avait étripé son prisonnier, dont il ne s'occupa plus. Il avait en effet autre chose à faire. Les condamnés étaient devenus comme enragés. Et bien qu'ils eussent les pieds et les poings liés, ils se laissaient tomber de tout leur poids sur leurs gardes pour les empêcher de faire usage de leurs armes. Le resserrement dans lequel tout le monde se trouvait aidait cette manœuvre, et l'on entendait des sectionnaires hurler de douleur parce qu'on les mordait. il serait difficile de rendre compte exactement du degré de confusion qui régnait alors. Les cris des blessés et des mourants, ceux de la foule piétinée, les cavaliers désarçonnés et ces brigands de mitron, dans lesquels un œil militaire exercé eût reconnu beaucoup d'hommes de la coloniale dévoués au subdamoun. Tout cela faisait un tapage d'enfer, cependant que le massacre des sectionnaires allait bon train. Tout de même, la troupe arriva à se reformer autour des trois derniers camions qui furent rapidement dirigés vers la place de la Révolution par un détour. Quant à la première voiture, on put croire qu'elle était définitivement aux mains des assaillants. Elle fut à eux quelques secondes. Une roue s'étant détachée, la cargaison humaine roula à terre, à l'exception cependant de Sonia et de Lavaubourg, qui instinctivement s'étaient raccrochés aux barreaux du fond près desquels ils se trouvaient. C'est ce qui les perdit. Messieurs Florent et Barquimel, eux, avaient roulé avec les autres. C'est ce qui les sauva. Ils restèrent un temps étendus sur le pavé et on ne s'occupa pas plus d'eux que s'ils étaient morts. La première charrette était venue ainsi s'échouer au coin du trottoir. Le subdamoun, qui était descendu dans la mêlée, s'apprêtait à s'élancer. Et déjà Sonia pouvait se croire sauvée, quand il trébucha sous la rude poussée du vieillard aux cacahuètes. Chéri-Bibi le maintint quelques secondes ainsi, à terre, dans l'instant même qu'une terrible décharge éclatait. C'était un poste qui accourait, commandé par le général Flottard lui-même. Il s'était fait décerner le grade la veille. Sans Chéri-Bibi, qui avait entravé son élan, le subdamoun eût été littéralement passé par les armes. Dès ce moment, il n'y eut plus moyen de lutter. Des gardes civiques s'étaient rués sur les deux prisonniers qui restaient et avaient fait monter Sonia et Lavaubourg dans une auto-limousine qui était abandonnée là et sur le siège de laquelle monta Flottard qui se mit au volant. Il jura de conduire lui-même ses illustres victimes à la guillotine et, entouré d'une troupe de près de 200 gardes à cheval, il partit à petite mais sûre allure. Aucun incident ne se produisit jusqu'à la place de la Révolution. Ainsi le destin voulait que ces deux êtres qui eussent pu se haïr à cette heure suprême fussent réunis dans la mort. Ils se regardèrent. Dans leurs yeux à tous deux, la lueur du pardon passa. Sonia dit à Lavaubourg « Prions, mon ami. » Et ils prièrent. Elle dit encore à Lavaubourg « Pardonnez-moi comme je vous ai pardonné. » Il lui répondit « Je vous aime et c'est vous qui devez me pardonner. » Une clameur de rage et de malédiction les accueillit tous deux quand ils eurent gravi l'escalier et qu'ils se trouvèrent sur la fatale plateforme. Tout ce qui restait de la Révolution, plus qu'à demi vaincu, s'était donné rendez-vous là, pendant que le bruit du canon des Versaillais ne cessait de se rapprocher. Une heure plus tard, nous étions peut-être... fit Lavaubourg. De toute évidence, il voulait dire « Nous étions peut-être sauvés ». Mais il n'eut point le temps d'achever sa phrase. Les aides du bourreau l'avaient entrepris et jeté sur la bascule. Le couteau tomba. Sonia détourna sa tête, pâle et dorée. Les clameurs s'étaient, une seconde, tues. Alors, Sonia entendit un sanglot quelque part dans la foule. « Il est là !» se dit-elle. Et elle se fit plus grande encore et plus belle en attendant que le bourreau la fît plus petite. Ce ne fut pas long. Sa tête alla rouler parmi d'autres têtes, dans l'horrible panier.